Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI midi.
C'est l'heure du journal d'Alban Le Prince. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Et à la une, cette série d'explosions au Liban où après les beepers, hier ce sont les talkie-walkie des membres du Hezbollah qui se sont embrasés, faisant 37 morts et 450 blessés. À cette semaine de la présidentielle américaine, une nouvelle illustration de la fracture aux États-Unis. Le puissant syndicat des Teamsters, les camionneurs, refusent de soutenir un candidat plutôt que l'autre. Au sommaire également, la France, dernière journée de tractation pour Michel Barnier. Le Premier ministre mène ses ultimes consultations à Matignon en vue de nommer un gouvernement. Et puis le Canada qui fait machine arrière puisqu'après avoir attiré de la main-d'œuvre étrangère, le pays annonce désormais un durcissement de ses règles en matière d'immigration.
Au Liban, le bilan passe à 37 morts et 450 blessés.
Après les explosions de talkie-walkie du Hezbollah, hier au lendemain d'une première vague d'explosions de beepers qui a fait 12 morts et 2800 blessés, la formation et le gouvernement libanais accusent Israël d'être derrière ces attaques. L'État hébreu n'a de son côté pas fait de commentaires. Dans la banlieue sud de Beyrouth, les attaques nourrissent la peur, mais les partisans font bloc derrière le Hezbollah. Le reportage de Laure Stéphane.
Elham, voilée de noir, est réticente à parler de son frère, membre du Hezbollah, blessé dans l'attaque de mardi. Elle précise juste qu'il est grièvement blessé aux yeux et aux mains. Et malgré le coup porté, elle maintient son soutien au Hezbollah.
Nous allons tenir bon. Jusqu'à notre dernier souffle, nous resterons sur la ligne du Hezbollah. Nous ne nous arrêterons pas. Ce sont eux, les Israéliens, qui veulent la guerre. Ils pensent que par de telles attaques, nous allons faire marche arrière et être affaiblis. Mais c'est tout le contraire.
Les scènes de chaos, le grand nombre de blessés ont pourtant ébranlé les habitants de la banlieue sud de Beyrouth. La présence régulière de drones de surveillance au-dessus du quartier renforce le sentiment d'insécurité. Raya, une jeune femme, veut toutefois se montrer impassible.
Nous avons juste eu peur pour les hommes du Hezbollah en raison de ce qui leur est arrivé. La situation est dangereuse, mais que Dieu guérisse les jeunes blessés, qu'il les protège afin qu'ils puissent nous protéger.
Le Premier ministre démissionnaire Najib Mikati a demandé à l'ONU de faire stopper la guerre technologique d'Israël contre son pays. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
Et après cette série d'explosions, les investigations se poursuivent pour tenter d'identifier formellement les auteurs de cette opération. De premières analyses indiquent que le Mossad aurait infiltré la chaîne d'approvisionnement de talkie-walkie et de beepers utilisés par le Hezbollah. Oriane Verdier.
Selon une enquête préliminaire menée par les autorités libanaises, les appareils piégés étaient préprogrammés pour exploser. Ils étaient officiellement vendus par la société taïwanaise Gold Apollo, mais en réalité produits par une entreprise basée en Hongrie. C'était en fait une façade israélienne, selon des officiers du renseignement israélien interviewés par le New York Times. Selon le journal américain, au moins deux autres sociétés écrans avaient été créées pour masquer l'identité réelle des personnes chargées de créer les appareils de télécommunication. BAC Consulting, la société basée en Hongrie, acceptait des clients ordinaires auxquels elle vendait des appareils de télécommunication ordinaires. Mais selon le New York Times, le seul client qui comptait vraiment était le Hezbollah. Leurs beepers étaient fabriqués séparément. Leur batterie contenait de l'explosif, selon les trois officiers du renseignement interviewés par le New York Times. Le matériel aurait commencé à être expédié au Liban à l'été 2022 en petit nombre, mais la production a rapidement augmenté après que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a décidé de bannir les téléphones portables susceptibles d'être piratés par la haute technologie israélienne.
Hassan Nasrallah qui doit s'exprimer aujourd'hui à 14h, temps universel. La communauté internationale s'inquiète de son côté d'un embrasement régional. Conséquence, réunion en urgence demain du Conseil de sécurité de l'ONU pour en discuter. Avant cela, les représentants de la diplomatie américaine, française, allemande et italienne ont rendez-vous aujourd'hui à Paris pour faire le point sur la situation au Liban, évidemment, mais aussi sur l'état des négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza.
Ali Bongo renonce définitivement à la politique.
Annonce ce matin de l'ex-président gabonais qui demande dans un appel transmis à la presse de la clémence pour sa famille qui est victime, je cite, de violences et de tortures depuis le coup d'état du 30 août 2023. Ali Bongo vit dans sa résidence privée de Libreville, libre de quitter le pays selon le gouvernement, tandis que sa femme et son fils sont détenus à la prison centrale de Libreville.
Et on y reviendra dans une demi-heure dans Afrique Midi. D'ici là, on va parler de politique en France. Va-t-on voir une fumée blanche sortir partir de Matignon ce soir.
Deux semaines après sa nomination, Michel Barnier tarde à dévoiler la composition de son gouvernement. Mais ce n'est peut-être plus qu'une question d'heure. Dernière journée de consultation pour le Premier ministre aujourd'hui, Charlotte Urien-Tomaca.
Oui, le calendrier semble s'accélérer. Ce matin, le nouveau Premier ministre a reçu séparément le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Matignon a fait savoir dans la foulée qu'il s'agissait de la dernière journée de consultation pour le Premier ministre. Puis à 15h, Michel Barnier recevra toutes les formations politiques qu'il a consultées en vue de la formation rapide d'un gouvernement, mais sans donner plus de précisions. Car hier, la situation semblait inextricable pour le locataire de la rue de Varennes. Deux réunions avec Gabriel Attal et les représentants de la droite républicaine ont été reportées coup sur coup, après que le Premier ministre a fait savoir qu'il avait découvert une situation budgétaire très grave. Il est hors de question d'entrer dans un gouvernement qui augmente les impôts, affirmait dans la foulée Gérald Darmanin. D'un autre côté, Michel Barnier aurait rendu sa copie au président ce mardi avec une liste de ministrables, mais le Premier ministre se serait heurté à un refus d'Emmanuel Macron, inflexible sur certains portefeuilles ministériels qu'il souhaiterait voir attribués à des ministres sortants. Et dans un tel contexte de dialogue impossible, la rumeur d'une démission du Premier ministre agitait tous les camps politiques concernés mercredi en fin de journée. Rumeur démentie par Matignon qui expliquait que le Premier ministre poursuit son travail.
Merci beaucoup Charlotte Urien-Tomaca.
En Nouvelle-Calédonie, la crainte d'un regain de tension après la mort la nuit dernière de deux hommes.
Tués par des tirs d'un membre du GIGN au cours d'une opération au sud de Nouméa. Il s'agit de deux habitants de la tribu Kanak de Saint-Louis qui faisaient l'objet d'un mandat de recherche depuis le mois de juillet. Dans un communiqué, le FLNKS déplore un jeudi noir pour le peuple Kanak. Le procureur de la République de Nouméa a de son côté annoncé l'ouverture de deux enquêtes. Le couvre-feu instauré depuis les émeutes reste en vigueur de 22h à 5h. Et de 18h à 6h du 21 au 24 septembre, jour férié sur l'archipel qui marque sa prise de possession par la France en 1853. La Martinique, elle aussi, est en proie à des nuits de violence dans un contexte de mobilisation contre la vie chère. Un couvre-feu est décrété depuis hier soir et au moins jusqu'au 23 septembre de 21h à 5h dans certains quartiers de Fort-de-France.
On prend à présent la direction des États-Unis. Nous sommes à 7 semaines de l'élection présidentielle. Donald Trump était en meeting à New York hier et il s'en est violemment pris aux immigrés.
En les traitant d'animaux, de terroristes, de criminels. L'ex-président américain qui brigue un nouveau mandat à la Maison-Blanche a annoncé qu'il se rendrait dans les deux prochaines semaines à Springfield où de fausses rumeurs sur les Haïtiens qui mangeraient, selon lui, des chats et des chiens circulent. Pendant ce temps-là, sa rivale Kamala Harris était à Washington pour tenter de capter l'électorat latino-américain lors d'une réunion publique. Les États-Unis plus que jamais fracturés. Illustration avec les Teamsters, un puissant syndicat de camionneurs. Hier, pour la première fois en 28 ans, il a annoncé ne soutenir aucun des deux candidats. C'est le reflet d'une crise profonde avec le monde syndical, explique Donna Kesselman, professeure à l'université Paris-Est-Créteil, spécialiste du syndicalisme américain.
C'est que nous sommes actuellement dans le contexte de l'ébranlement de l'alliance historique entre le syndicalisme américain et le Parti démocrate qui date depuis Roosevelt et le New Deal. Il ne faut pas oublier le tournant des élections de 2016. Le candidat Trump s'était positionné comme le défenseur du travailleur avec son discours protectionniste en disant qu'il allait défendre l'industrie américaine. Et un quart des électeurs syndiqués qui avaient voté Obama en 2012 qui ont modifié leur vote dans les États clés et qui ont décidé l'élection de 2016. Si on regarde les positions de Biden et des démocrates, ils sont en train de payer leur position, notamment par rapport à la grève des chemins de fer de 2022. Les démocrates et Biden ont mobilisé des institutions très obscures du Congrès pour empêcher cette grève et les Teamsters sont très présents chez les travailleurs de chemins de fer.
Des propos recueillis par Joris Zilberman.
Le Canada serait-il victime de son succès ?
Question puisqu'après avoir mené des campagnes de recrutement massives dans le monde entier pour combler ses besoins en main-d'œuvre, eh bien le pays fait machine arrière et annonce un durcissement de ses règles en matière d'immigration avec une réduction du nombre de permis d'études internationaux et le durcissement des conditions d'obtention de permis de travail temporaire. Alors quelles conséquences pour les personnes déjà installées au Canada et leurs employeurs ? Élément de réponse avec Pascal Guéricola.
Vouloir venir au Canada est peut-être un rêve, mais c'est un privilège et non un droit.
Cette mise en garde du ministre canadien de l'immigration, Mark Miller, illustre bien le changement de ton à Ottawa face à l'immigration. Préoccupé par les difficultés d'accès au logement et aux services publics, le gouvernement veut réduire le nombre d'étrangers à petits salaires recrutés par des entreprises sur une base temporaire. Des soudeurs, des mécaniciens, employés pour combler des besoins en main-d'œuvre en dehors des grandes villes, risquent de ne pas pouvoir renouveler leur permis de travail. Le constat de l'avocate en immigration, Krishna Gagné.
À partir de la semaine prochaine, si une entreprise a déjà 60 % de travailleurs étrangers à bas salaire, elle ne pourra nécessairement pas renouveler tous ces travailleurs. Plusieurs entreprises sont actuellement en panique.
Plusieurs déplorent le manque de mesures de transition. Certains risquent de perdre leur emploi du jour au lendemain, comme le déplore Claire Launay de l'association Le Québec, c'est nous aussi.
C'est juste des projets de vie qui tombent complètement à l'eau pour des milliers de personnes s'ils ne peuvent pas renouveler leur permis de travail, alors que ces règles-là n'existaient pas quand elles sont arrivées au Canada.
Selon elle, des immigrants temporaires pourraient donc se retrouver sans papier. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Pas un jour ne passe désormais sans qu'une nouveauté liée à l'intelligence artificielle ne soit annoncée.
Son développement semble inévitable, mais comment limiter les risques? Faut-il la réguler? Une trentaine d'entreprises incluant Meta, chercheurs ou encore associations ont appelé l'Union européenne à une clarification de la réglementation européenne. Le problème se pose aussi au niveau mondial. Une quarantaine d'experts des technologies, du droit et de la protection des données personnelles réunis à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, plaident pour une coopération internationale en la matière, Agnieszka Kumor.
Ne pas abandonner l'intelligence artificielle aux lois du marché, c'est ce que disent les experts de l'ONU. Leur rapport, publié en amont du Sommet pour l'avenir à New York, constate sans surprise le manque de gouvernance mondiale concernant l'IA, sans parler du fait que les pays en développement sont quasiment exclus du débat. Premier outil suggéré serait donc la création d'un groupe international d'experts scientifiques sur l'IA, à l'instar du groupe d'experts pour le climat, le GIEC. Ces rapports font référence en la matière. Le rôle de ces scientifiques serait d'éclairer le monde sur les risques émergents, désinformation, deepfake, violation des droits humains ou utilisation par des criminels ou des terroristes. La liste des risques est longue. Il s'agirait aussi d'envisager des recherches dans d'autres domaines, et ce pour utiliser l'intelligence artificielle dans le développement durable, comme l'élimination de la faim et de la pauvreté, l'égalité homme-femme, ou encore le dérèglement climatique.
Agnieszka Kumor. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est en Pologne aujourd'hui. Un déplacement pour rencontrer les dirigeants polonais, slovaques, tchèques et autrichiens, dont les pays ont été durement touchés par le passage de la tempête Boris qui a fait 23 morts, selon un dernier bilan.
En Asie du Sud-Est, c'est le typhon Yagi qui a fait des ravages ces derniers jours, ces dernières semaines, et la Birmanie a compté 268 morts.
Et 88 personnes portées disparues, selon le dernier bilan communiqué par la junte, alors qu'une première cargaison d'aide étrangère transportant notamment de la nourriture séchée, des vêtements, des médicaments et des tentes est arrivée selon les médias locaux. Les Nations Unies estiment à 630 000 le nombre de personnes qui pourraient avoir besoin d'aide suite au passage de ce super typhon. Au Portugal, frappé par une vague de feu depuis une semaine, les pompiers tentent toujours de venir à bout d'une douzaine d'incendies significatifs. Les deux plus importants se situent dans le nord du pays, dans la région d'Aveiro et dans le district de Viseu. Depuis le week-end dernier, ces feux ont fait 5 morts, 77 blessés, dont 12 graves. D'après les données du système européen d'information sur les feux de forêt, 100 000 hectares auraient été affectés par les feux ces derniers jours.
Au Vietnam, Truong My Lan, richissime femme d'affaires, se retrouve une nouvelle fois devant la justice.
Déjà condamnée à mort en avril dernier dans la plus grande affaire de fraude financière de l'histoire du pays pour avoir détourné 27 milliards de dollars, Carlota Morteo, ce deuxième procès qui s'ouvre à Ho Chi Minh Ville est déjà très suivi.
Oui, car l'affaire choque énormément l'opinion publique au Vietnam. 27 milliards de dollars de détournement de fonds, c'est l'équivalent de 6% du PIB du pays tout de même, et ce sont des milliers d'épargnants qui ont, au bout du compte, perdu de l'argent. Le premier procès a révélé les défaillances du système bancaire vietnamien, exposé à un réseau de corruption qui mêle dirigeants d'entreprises et hauts fonctionnaires. Dans cette nouvelle escroquerie présumée, Truong My Lan, la patronne d'un des plus grands groupes immobiliers du Vietnam qui détient 90% de la banque commerciale de Saigon, est accusé d'avoir émis de fausses obligations entre 2018 et 2022, des prêts frauduleux à des sociétés écrans, aujourd'hui insolvables. 18 milliards de dollars auraient ainsi été puisés sans vergogne dans les caisses. Elle comparaît pour blanchiment et fraude aux côtés de son mari et de 33 complices dans une salle d'audience comble où une centaine d'avocats doivent plaider pendant un mois. Très médiatisé, le procès sert d'exemple et donne du crédit à la campagne anticorruption lancée en 2016 par le Parti communiste au pouvoir, surnommée « Fournaise ardente ». Cette campagne a fait tomber plusieurs grands patrons parmi les plus en vue du pays.
Carlotta Morteo.
Merci Alban Leprince. Nos auditeurs vous retrouvent dans deux heures pour un prochain journal. Et RFI Midi se poursuit tout de suite avec l'actualité sportive. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Anne Cantner, bonjour tout le monde.
Du football et la Ligue des Champions, épisode 3 ce soir avec les 6 derniers matchs de la première journée.
Les 12 dernières équipes engagées vont découvrir ce soir la nouvelle formule de la Ligue des Champions pour Brest. Ce sera même une plongée totale dans l'inconnu puisque le club finistérien va disputer pour la toute première fois de son histoire la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Il a décroché sa qualification en terminant 3e du dernier championnat. Et ce soir, la plupart des joueurs bretons vont donc toucher les étoiles, puisque seuls 8 membres de l'effectif ont déjà goûté à la Ligue des Champions. Pour les autres, le rêve va devenir réalité à l'image du capitaine Brendan Chardonnay, qui reste néanmoins serein à l'approche de ce grand rendez-vous.
Oui, on réalise, je réalise. Alors c'est vrai qu'il y aura une étape supplémentaire encore quand on va venir reconnaître le stade, quand on va s'échauffer, quand réellement la musique de la Ligue des Champions va se mettre à résonner dans le stade. Là, l'étape supplémentaire sera passée, mais oui, on réalise pour l'instant, mais c'est vrai qu'on est plutôt tranquille dans le groupe. Pour l'instant, on prépare le match, alors pas comme d'habitude, on va dire, mais ça reste relativement simple. Le groupe est serein, mais on a hâte à demain.
Et demain, c'est ce soir, une découverte de la Ligue des Champions que Brest effectuera à domicile, pas dans son stade de Félix Leblay, qui n'est pas homologué pour cette compétition, mais pas loin de là, à Guingamp, ce sera, en fait, face à quel adversaire ? Eh bien, face au club autrichien de Sturm Graz.
Pour l'autre club français engagé ce soir, l'AS Monaco, ce ne sera pas une première, mais des retrouvailles.
Voilà 6 ans que le club de la Principauté n'a plus disputé la Ligue des Champions. Et pour son grand retour sur la plus grande scène européenne, il a été gâté avec la réception du FC Barcelone, une équipe catalane depuis peu, entraînée par l'Allemand Hansi Flick, mais qui tourne déjà à plein régime. 5 matchs disputés pour 5 victoires, avec 17 buts marqués au passage. Pas de quoi atténuer le plaisir du milieu monégasque suisse Denis Zakaria, ravi d'affronter le Barça ce soir au stade Louis II.
On a hâte de jouer contre le Barça. On sait qu'en Champions League, on jouera contre les meilleures équipes d'Europe. Donc on est ravi de ça et on a hâte de les affronter. Honnêtement, c'est très très fort ce qu'ils font. C'est une équipe très très forte. Je pense l'une des meilleures dans ce début de championnat. Et par rapport à nous, je pense que voilà, on fait un bon début également de championnat. Après, c'est clair que voilà, jouer le Barça, c'est jamais facile et ce sera à nous de livrer un match quasi parfait pour poser des problèmes au Barcelone.
Les Monégasques de Denis Zakaria, eux aussi invaincus en ce début de saison avec 3 victoires et 1 nul. Monaco FC Barcelone et Brest Sturm Graz, coup d'envoi à 19h temps universel. À la même heure, on suivra les matchs Atalanta-Bergame-Arsenal et Atlético Madrid-RB Leipzig. 2 autres rencontres débuteront à 16h45 TU, Étoile Rouge de Belgrade-Benfica et Feyenoord de Rotterdam.
On espère que nos auditeurs ont tout entendu parce qu'on a eu un petit problème de micro.
Je prends un autre micro.
Toujours à propos de la Ligue des Champions. Hier, Eric, c'est dans la douleur que le Paris Saint-Germain a remporté son premier match dans cette Ligue des Champions.
Oui, la délivrance au Parc des Princes n'est venue qu'à la 90e minute face à Gérone sur un tir excentré du Portugais Nuno Mendes, bien mal négocié par le gardien adverse, pourtant irréprochable jusque-là. Un succès des Parisiens 1-0 bien laborieux, mais qui les satisfait pleinement, comme l'a confié le défenseur marocain Achraf Hakimi.
Oui, on est content. C'est bien de commencer avec les 3 points et c'est une compétition différente. C'est bien de commencer avec un victoire et j'espère continuer comme ça avec la bonne intensité et le bon rythme. Gérone, il joue bien aussi. C'est une équipe qui l'a montré avec beaucoup de personnalité. Il a essayé de prendre le ballon à nous aussi, de faire des pressings beaucoup. C'est pour ça la première mi-temps, c'est un peu difficile pour nous pour trouver l'espace. Je pense que la deuxième mi-temps, on a trouvé cet espace. Gérone, il a descendu un petit peu l'intensité et c'est nous, on a profité de ça et c'est pour ça qu'on a créé beaucoup plus d'opportunités.
Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, propos recueilli par Cédric de Oliveira. Prochain rendez-vous pour le PSG en Ligue des Champions. Ce sera le 1er octobre à Londres face aux Gunners d'Arsenal.
Le journal des sports, Eric Mamrut. Et si vous n'avez pas tout entendu à cause de notre petit problème de micro, vous pouvez le réécouter sur l'appli RFI Pure Radio. Et puis toute l'actualité du foot, ce sera aussi tout à l'heure Radio Foot International à 16h10 temps universel.
RFI. Le Monde à midi.
Le Premier ministre libanais demande aux Nations Unies de stopper la guerre technologique menée par Israël contre son pays. Appel lancé après deux séries d'explosions des beepers piégés mardi, des talkie-walkies hier. Ces attaques ont fait 37 morts et plus de 3500 blessés, dont de nombreux membres du Hezbollah. Bonjour Général Jérôme Pellistrandi.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Cette opération menée par Israël est spectaculaire. Elle a des effets évidemment très importants et on l'entend dans les reportages de nos correspondantes au Liban. Des effets en termes d'image, en termes de peur. Quelle est la stratégie sur un plan plus concret concernant le Hezbollah ?
Visiblement, l'objectif d'Israël, bien que celle-ci n'ait pas revendiqué ces deux attaques, était d'éliminer ou en tout cas d'affaiblir durablement la direction du Hezbollah avec deux phases. La première, donc, avec les beepers, ces systèmes de communication donc, qui pouvaient sembler finalement à l'abri des cyberopérations et qui s'est révélé terriblement efficace contre le Hezbollah. Et puis hier, avec des actions sur les talkie-walkie, donc ces petits appareils radio portatifs qui sont distribués au niveau des chefs tactiques du Hezbollah. Donc un bilan très lourd et une désorganisation complète de la chaîne de commandement du Hezbollah.
Et de fait, est-ce qu'on peut estimer qui au sein du Hezbollah a été atteint, a été peut-être même éliminé au sein du mouvement ?
Alors oui, on peut penser que ce sont les têtes. Alors la première frappe, les beepers, c'est concerné, je pense, les chefs ayant des responsabilités, notamment un peu sur tout le territoire. Et puis les talkie-walkie, ce sont les petits chefs tactiques qui, eux, mènent les combattants. Donc, quand on voit le nombre de blessés, plus de 3600 blessés et les 37 morts, c'est un coup dur pour l'encadrement du Hezbollah. Ça veut dire qu'il est vulnérable et surtout, cela veut dire que les services secrets israéliens, si ce sont eux, bien sûr, ont en quelque sorte une cartographie quasi complète de l'organigramme du Hezbollah.
Et en effet, les membres du Hezbollah ont été touchés dans plusieurs régions du pays, notamment dans leur fief. Alors, le Premier ministre israélien a promis cette semaine le retour des habitants du nord d'Israël chez eux. Il en a fait un objectif. Il faut rappeler qu'un certain nombre de personnes ont dû partir à cause des tensions et des frappes qui sont menées à la frontière entre les deux pays. Cet objectif, il a été répété par le ministre israélien de la Défense hier. Pensez-vous qu'Israël pourrait mener une opération terrestre dans le sud du Liban pour le permettre ?
Ce n'est pas à exclure, puisque effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a environ 60 000 civils israéliens qui ont dû quitter cette partie nord d'Israël parce que soumise au bombardement du Hezbollah depuis le lendemain des attaques terroristes du 7 octobre dans la bande de Gaza. Donc on peut penser qu'il pourrait y avoir une opération terrestre. En tout état de cause, le Hezbollah est dans une situation très compliquée parce que il va vouloir riposter, mais ses chaînes de commandement ont été neutralisés. On ne peut pas utiliser les téléphones portables. Les beepers, on a vu ce que ça a donné. Donc, cette désorganisation, elle est très nettement en faveur d'Israël. Alors, est-ce que dans les jours à venir, il va y avoir une opération terrestre ? C'est ce que tout le monde redoute. En tout état de cause, il va falloir du temps au Hezbollah pour se réorganiser et trouver des nouveaux mode de transmission des ordres. Et c'est compliqué, puisque on voit bien que Israël domine complètement sur ce type d'opération et que passer un appel avec un téléphone portable, en fait, c'est en quelque sorte se condamner à très court terme.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui une autre issue qu'une escalade militaire ?
Il pourrait y avoir en quelque sorte une espèce de temporisation, c'est-à-dire que on va le voir d'ailleurs cet après-midi avec la déclaration du leader du Hezbollah libanais qui doit s'exprimer. Va-t-il faire un discours enflammé en quelque sorte, dire nous allons répliquer immédiatement, ou va-t-il s'agir d'un discours avec certes une rhétorique très violente et puis en quelque sorte une espèce de temporisation. N'oublions pas que c'est ce qui se passe depuis le 31 juillet, lorsque le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été éliminé à Téhéran. L'Iran avait dit qu'elle allait répliquer, et depuis il n'y a pas eu réellement de réplique, donc peut-être que le Hezbollah ne s'engagera pas dans une épreuve de force qu'il risque de perdre face donc à l'armée israélienne.
Vous nous avez rappelé le cas d'Ismaël Haniyeh. Il y a un certain nombre de figures qui ont été éliminées par Israël, à la fois concernant des membres du Hamas, là du Hezbollah. Est-ce qu'il y a des effets concrets au-delà du choc et de l'image qui est provoquée à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des conséquences stratégiques pour Israël?
Oui. Alors, pour Israël, on va dire, c'est, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, de bonne guerre, c'est-à-dire qu'ils éliminent les dirigeants des groupes terroristes, donc extrémistes, et à l'inverse, pour les chefs du Hezbollah qui n'ont pas été touchés, il y a une forme de paranoïa, parce que d'abord, ça veut dire que l'appareil militaire du Hezbollah a été pénétré, puisque ça veut dire que les Israéliens ont su à un moment donné qu'il y avait des besoins en termes de télécommunication. Enfin, c'est une opération qui a été menée donc très en amont, et on le voit, il y a un certain nombre de témoignages au Liban où même les gens n'osent même plus allumer leur télévision de peur qu'elle soit piégée. Donc cette paranoïa va durer encore un certain temps et paralyse certainement le processus de décision au sein du Hezbollah.
Je vous remercie, général Jérôme Pellistrandi, d'avoir été en ligne avec nous. Et je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. On va parler de nouveau de foot à présent, du phénomène Mbappé. Sur les réseaux sociaux, dans les clubs, au sein des familles, on parle même de projet Mbappé. Ça veut dire, globalement, être prêt à tout pour qu'un enfant devienne un joueur de football professionnel. La passion n'est pas loin de la pression pour ces tout jeunes joueurs, avec parfois des dérives de la part des entraîneurs, voire même des arbitres. Reportage, Emma Garbou-Lorenzoni.
Du coup, il y a 3-0 pour Logne.
C'est la tradition, alors direction les vestiaires pour fêter la victoire. Au milieu de cette ambiance festive, le petit Medine a l'air contrarié. Les mains dans les poches, il se tient un peu à l'écart du groupe.
Alors Medine, t'as pensé quoi de ton match?
Bien, mais je pouvais faire mieux.
Qu'est-ce que tu pouvais faire mieux?
Marquer, faire des meilleurs appels.
Le père de Medine prend son rôle très au sérieux. Il a l'habitude d'entraîner ses deux garçons, Medine et son frère Moud Alpha, dans un stade ouvert au public à quelques pas de la maison familiale.
Très souvent, c'est après, on va dire, chaque entraînement, chaque match, on essaie de revoir en fait ce qui a été, ce qui n'a pas été, renforcer ce que le coach leur apprend et corriger les erreurs, leur apporter de nouvelles petites techniques du footballeur du dimanche. Moud Alpha, viens, donne-moi un ballon, t'es lassé. C'est bon, Medine ? Là, conduite de balle, tu vas jusqu'au bout et tu reviens. Alors, mon père, lui, je pense que c'est plus achever ce qu'il a commencé. Et comme lui, il a échoué, mon petit frère aussi était vraiment proche du but, il a échoué. Donc, en fait, il rêve de voir Medine devenir footballeur. Ça le soulagerait, parce que je dirais, au moins, quelqu'un de la famille qui a fini footballeur, quoi.
Quand le foot devient une histoire de famille, il y a de la pression. Moud Alpha est moins à l'aise que son frère Medine sur les exercices et son père l'a repris plusieurs fois pendant la séance.
T'as pas compris? Tu lui redonnes la balle, tu passes entre les plots.
Le jeune garçon garde la tête baissée.
Kassar, qu'est-ce que tu penses de l'entraînement aujourd'hui?
C'est compliqué.
Pourquoi?
Parce que je sais pas faire.
Non, non, t'inquiète. De toute façon, c'est un loisir le foot, non? Si c'est pas un loisir, c'est quoi?
Sport?
Ouais, mais c'est pour s'amuser, non?
Non.
Ah bon, c'est pour faire quoi?
Bah c'est pour être un joueur pro.
Bah non, pas obligé.
Merci.
Il y en a qui parlent ici.
Bah oui, mais c'est pour.
Oh. Ah mais il faut travailler, hein. Ça se fait pas tout seul. Et il faut que tu travailles, il faut pas lâcher. Et toi, t'as tendance à toujours baisser trop vite les bras. Dès que t'arrives pas ou tu comprends pas un truc, tu vas te mettre à pleurer. Mais non, c'est pas ça.
Aujourd'hui, le football amateur est un secteur stratégique dans lequel se croisent à la fois des recruteurs, des parents ambitieux ou des enfants sous pression. Et pour analyser ce phénomène, il faut s'en remettre à l'évolution de l'économie du football. Pierre Rondeau est invité régulièrement dans les médias pour en parler.
On est de plus en plus au courant des rémunérations, des prix des transferts. Le parent peut se dire, si mon fils devient joueur de foot, il peut potentiellement gagner tant de milliers d'euros, ce qui est très intéressant pour ma famille. C'est pas que les parents sont beaucoup plus présents aujourd'hui qu'autrefois, c'est qu'aujourd'hui ils ont un intérêt à être présents.
Extrait du grand reportage d'Emma Garbou-Lorenzoni donc sur ce phénomène Mbappé et les dérives qu'il engendre. Vous pourrez écouter une version longue de ce reportage dans notre émission Grand Reportage ce soir à partir de 19h40, temps universel. Vous restez avec nous sur RFI, on se retrouve dans 30 secondes pour l'actualité africaine. A tout de suite.
Les couleurs du son et RFI Talent présente Naïssem Jalal en concert gratuit. Retrouvez la flûtiste-vocaliste franco-syrienne en duo avec la violoncelliste Lina Belaïd dans le cadre du festival Si rien n'est fait à Paris le 20 septembre à 21h. Plus d'infos sur lesarchescitoyennes.fr.